Chapitre 21. Sous l'effet de la drogue, les époux ont eu des rapports sexuels ininterrompus pendant 4 heures, jusqu'à ce que Kimberly reçoive un deuxième rappel sur son téléphone lui signifiant qu'elle devait rentrer pour un Zoom à 3h45 avec un important investisseur en Californie. Le feu dans le poêle s'est éteint. Pendant tout ce temps, ils n'ont ni mangé ni bu, et ont à peine échangé quelques mots. Kimberly a eu plus de 20 orgasmes et Pontus 5 ou 6. Kim allume le plafonnier, prend une douche rapide, se sèche, remet sa robe sans sous-vêtements et appelle son chauffeur. Pontus remarque que sa voix est devenue rauque. Elle est en train de se remettre du rouge à lèvres devant le miroir doré, les yeux injectés de sang, lorsque Pontus vient derrière elle, remonte sa robe et la pénètre. Ils retournent au lit et font l'amour pendant 40 minutes avant que le troisième rappel ne les interrompe. Kimberly quitte le lit, s'assied par terre pour enfiler ses escarpins, se relève en vacillant et quitte la pièce sans le regarder. Pontus reste allongé, le cœur battant fort dans sa poitrine. Il entend la porte d'entrée claquer, les talons marteler le gravier et la voix polie du chauffeur. Les portières de la voiture s'ouvrent et se referment doucement. Les pneus crissent sur le sol, puis tout devient silencieux. Pontus se dit qu'il devrait prendre 2 mg de Xanax et 10 mg d'Imovan pour essayer de dormir. Il doit se lever à 7 heures, prendre un petit déjeuner rapide au Fouriren et conduire ensuite jusqu'à Falun pour aller directement au travail. Soudain, un bruit lui parvient de la cuisine, comme si quelqu'un ouvrait un tiroir rempli de couteaux et de ciseaux. Il est 2h15 et il est complètement réveillé. Il aurait bien poursuivi leur relation sexuelle. Son pénis est douloureusement dur et ses muscles tremblent. Il touche son front endolori et comprend qu'il va avoir un bleu. Il se souvient que lorsqu'il a pris Kimberly par derrière, elle a joué en criant, puis s'est effondrée en avant. Il l'a suivie et s'est cogné le front contre la tête de lit. Des heures folles. La drogue active son système limbique au maximum. Son cœur bat fort, son cerveau libère des endorphines et un désir intense irradie son bas-ventre. L'augmentation du flux sanguin a fait rougir la peau de Kimberly et a intensifié la couleur de ses lèvres. Pontus ferme les yeux, submergé par des fragments de souvenirs. La peau de son pubis épilé parcourue de frissons lorsqu'elle écartait les jambes. La lampe de chevet tombée au sol avec un étrange bruit métallique, son vieux tatouage brillant de sueur sur son ventre rond, elle suçant ses doigts avant de les insérer entre ses lèvres gonflées et humides, lui, allongé entre ses jambes à la lécher, observant ses cuisses et ses fesses se tendre avant qu'elles ne gémissent bruyamment et ne referment les jambes autour de lui. Continue. Elle était assise à califourchon sur lui, et une goutte de sueur est tombée du bout de son menton. Il a serré ses seins de ses deux mains, les pressant ensemble tout en observant les fines rides qui remontaient vers son cou. Elle était complètement électrique. 5 fois, 6 fois, il l'a renversée sur le dos pour entrer plus fort en elle, tandis qu'elle relevait son bassin. « Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas !» Ce sont les mots qu'elle répète le plus souvent lors de ses nuits torrides. Il pourrait ne jamais s'arrêter, totalement obsédé par sa propre jouissance. C'est une pulsion déraisonnable, une période de rute chimique, comme elle aime le dire. Il s'est retiré afin d'éjaculer sur son ventre. Le sperme coulait le long de la cicatrice de sa césarienne lorsqu'elle a tendu le bras pour désactiver le premier appel sur son téléphone, puis elle s'est retournée sur le ventre tout en levant ses hanches vers lui. Pontus reste immobile dans le lit. Il ne peut pas arrêter de penser au sexe, imaginant Kimberly en train de se masturber dans la Mercedes Maybach. Il visualise comment elle doit être assise à l'arrière, les jambes écartées, se caressant, insérant 3 doigts dans son sexe sans pouvoir camoufler son orgasme au chauffeur. Mais en réalité, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que Kimberly s'est déjà transformée dans la voiture. Elle est devenue Caroline. Avec un rire empreint d'ironie, elle dirait qu'un esprit cristallin combiné à un bas-ventre palpitant est la combinaison parfaite pour conclure des affaires importantes. Pontus sort du lit, prend son téléphone et écrit un message à Kim, lui demandant de revenir. Elle répond simplement par un cœur. Lorsqu'il ramasse ses vêtements au sol, il remarque que les veines sur ses bras sont gonflées. Il retourne son pantalon et sa chemise dans le bon sens et les enfile avec des mains fébriles. Il prend son manteau dans la penderie, l'enfile en se rendant dans l'entrée, chausse ses bottes, ouvre les doubles portes jaunes et sort sur la véranda. L'air est merveilleusement froid. Il descend les deux marches jusqu'à la pelouse givrée. Des petits flocons de neige tourbillonnent dans l'air. La lumière provenant de la chambre éclaire les meubles verts du jardin. Il recule légèrement puis se retourne pour regarder dans la pièce. Les oreillers, les draps défaits et le matelas exposé. Dès que la drogue a pris possession de lui, il a oublié de tirer les rideaux. Il resserre son manteau autour de lui, noue sa ceinture, puis commence à marcher vers le nord sur la route étroite. Il fait sombre entre les arbres. Un nuage de vapeur s'échappe de sa bouche à chaque respiration. Il se sent fort, traversé par une énergie brute. Il pourrait marcher jusqu'à Uppsala, juste pour rejoindre sa femme et recommencer à lui faire l'amour après sa visio. Il emprunte un pont étroit en bois et observe l'eau qui tourbillonne le long d'une large courbe avec une intensité silencieuse. Les flocons qui volettent dans le vent disparaissent instantanément lorsqu'ils atteignent la surface noire. Pontus entend ses propres pas lourds résonner, tandis qu'il se met à penser au conte des trois boucs bourrus que son père avait l'habitude de lui lire. « J'ai deux grandes piques, avec elles je vais te crever les yeux !» Il atteint l'autre rive, puis suit la route qui mène à une grande maison sombre en bois. Pontus pense qu'il a oublié de vérifier si quelqu'un avait réellement dessiné un smiley triste sur leur fenêtre. Il s'arrête sous un lampadaire. Ses doigts sont devenus gris par le froid. Il enfouit ses mains dans ses poches. Marcher jusqu'à Uppsala n'était peut-être pas une si bonne idée. C'est à plus de 90 kilomètres d'ici. La neige tombe de plus en plus drue. Il cligne des yeux frénétiquement pour esquiver les flocons. Pontus tourne à droite, sur Brobacken. Le grondement du fleuve s'amplifie à mesure qu'il s'en approche. En traversant le pont Karl XIII, le rugissement devient presque assourdissant. Dans l'obscurité, les globes des lampadaires recouverts de neige flottent comme une file de lanternes blanches menant jusqu'à l'île de Lakshon. De l'autre côté du fleuve, l'immense bâtiment de briques rouges de l'ancienne centrale électrique monte si haut qu'il se perd dans la nuit. Le débit est exceptionnellement fort. La rivière écume et frappe violemment contre la jetée. Sous les turbines, l'onde noire tourbillonne en cercle agité. Pontus n'entend même plus ses propres pas. Il sursaute quand une voiture le frôle sur la bande asphaltée du pont. Quand les feux arrière disparaissent entre les arbres, il croit apercevoir une silhouette loin devant, dans l'obscurité. Au début, il pense à un nuage de neige soulevé par le passage du véhicule. Mais non, il y a bien quelqu'un. Toujours dans un état second, pense-t-il en s'arrêtant au milieu du pont. Il lève la main pour se protéger les yeux, mais la silhouette a disparu. Peut-être a-t-il rêvé. Il baisse le regard. Les flocons forment un voile sur les lichens jaunes vifs qui recouvrent le garde-corps en bois. Il observe ses bottes noires, les embouts sales, les interstices entre les planches et l'eau qui hurle en contrebas. Sortir dans cet état n'était pas une bonne idée. Il devrait simplement rentrer dans sa chambre et attendre que la drogue cesse de faire effet. La neige s'abat sur le pont et forme un angle droit avec le déferlement des masses d'eau écumante. Pontus s'arrête brutalement, croyant voir une croix blanche en mouvement. Il plisse les yeux vers l'autre rive. Aucun doute, une silhouette mince se tient immobile près d'un des piliers du pont. Que fait-elle là? Son visage baissé reste impossible à distinguer. Pontus se dit qu'il va traverser sans s'arrêter, peut-être lui adresser un salut rapide. Il se répète qu'il devra se comporter normalement, au cas où quelques mots seraient échangés. Il ne doit pas oublier ses pupilles dilatées. son énergie trop vive, ce trop-plein qui pourrait trahir son état. Mais quelque chose le retient. Il ne se résout pas à marcher vers l'île de Lakshan. Compulsivement, il commence à scruter le paysage dans la tempête. La silhouette est plus proche, bien qu'elle semble n'avoir pas bougé. Une vague de peur enfantine le traverse. Soudain, la silhouette avance, courbée, les cheveux dissimulés sous une capuche ou un châle. Elle glisse lentement vers le prochain lampadaire, soulevant derrière elle des volutes de neige comme une traîne fantomatique. Pontus aperçoit un éclat de bois verni dans sa main et pense d'abord à une canne. Mais ses gestes sont heurtés, anguleux, presque désarticulés. Le bois luit brièvement et dans le cône de lumière du lampadaire, Pontus distingue la tête massive d'une hache. L'angoisse lui serre le ventre. C'est irréel, pense-t-il. Sa première impulsion est de se retourner et de fuir. Mais il se raisonne. Il sait que la drogue pousse à agir trop vite. Ce n'est sans doute qu'un garde forestier sorti pour dégager des branches tombées sur la route. Et pourtant, quelque chose cloche dans cette silhouette. Quelque chose sonne faux. La neige et la lumière vacillante des lampadaires donnent l'illusion qu'elle avance à une vitesse qui ne correspond pas au mouvement de ses jambes. Pontus se dit qu'il ne peut pas rester planté là. Un bruit retentit derrière lui, comme des petites pierres qui roulent dans un sac. Il se retourne, la bouche sèche, et décide de s'éloigner. Vite, mais sans courir. Il fait un pas, et se sent immédiatement retenu. Sa ceinture s'est accrochée au garde-corps. La silhouette s'approche. Ses pas résonnent, lourds, de plus en plus proches. Pontus tire sur la ceinture, rien n'y fait. Il commence à enlever son manteau. C'est alors que le plat de la hache s'abat sur sa joue. Son visage pivote sous l'impact. Son genou gauche cède et sa vision devient floue. Aveuglé, il tombe et parvient à amortir sa chute avec ses mains. À quatre pattes, il crache des dents cassées. Du sang coule de sa bouche. C'est sûrement un malentendu. Il doit se relever et courir. Soudain, il pense au petit bourdon qu'il avait apprivoisé lorsqu'il était enfant. « Mon Dieu » allait-il en essayant de se relever. Le rugissement du fleuve lui revient comme un train lancé à pleine vitesse. Il neige et tout est obscur. Il se sent confus et ne parvient pas immédiatement à se souvenir où il est. Il touche son crâne, sans ses cheveux collants et un enfoncement humide au niveau de sa tempe. La douleur le mord violemment et le ramène à lui. « J'ai de l'argent !» dit-il d'une voix trouble tout en sortant son téléphone portable. « Je peux vous transférer des fonds. Donnez-moi un numéro. » Il avale du sang tout en composant le 112 et pose son téléphone sur le garde-corps. Il est sur le point de dire qu'il a 2 millions bloqués lorsqu'il voit l'ombre blanche pivoter. Ses épaules bougent convulsivement avec un bruit sec et mécanique. Pontus chancelle sous un nouveau coup. La lame de la hache a maintenant frappé son bras et s'est profondément enfoncée. La douleur est insoutenable.
« Putain, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as frappé ? »
dit-il choqué. Il tâtonne son bras avec son autre main tout en gémissant sous l'effet de la douleur. Il sent la chaleur du sang qui s'écoule. Il perçoit des parties molles, des surfaces glissantes coupées nettes ainsi que l'os fracturé. Ça ne peut pas être réel. Il est sur le point de s'évanouir. Il aurait besoin de s'allonger. Son bras est presque sectionné et ne tient que grâce à ses vêtements.
« Écoute !» dit-il entre deux respirations saccadées. « Écoute, je sais pas !»
Le coup suivant frappe presque au même endroit. Pontus gémit tout en vacillant contre le garde-corps. Son bras glisse vers le bas et vient pendre contre sa cuisse. La douleur explose, brûlante, comme si un fer rouge s'enfonçait dans une chair trop étroite pour le contenir. Il est incapable de lâcher prise, même si chaque seconde est insoutenable. Il titube légèrement lorsque la hache est retirée, mais parvient à garder son équilibre. Il tousse et voit l'arme prête à frapper à nouveau. Il observe la lame tranchante approcher de son visage et repense au minuscule bourdon butinant les bruyères en fleurs dans les prés. Des insectes discrets, pas plus gros que des pois. au moment où sa tête est séparée de son corps. Pontus revoit apprivoiser ses bourdons en joignant ses mains autour d'eux. Le choc provoqué par cette petite onde empêchait temporairement leur vol. Il rampait sur sa main, grimpait entre ses doigts, comme s'ils étaient affectueux et voulaient rester près de lui.